Et oui, c'est avec Olivier Beauregard qu'on va jeter un coup d'œil à la dernière semaine sportive. Olivier, bonjour.
Salut Sébastien.
Et on commence dans le monde du hockey. On va en faire un tour chez les Sénateurs qui ont fait une belle signature.
Oui, absolument. Alex Galchenyuk, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, surtout les amateurs du Canadien de Montréal, qui le connaissent parce que ça a été le troisième choix au total, lui, à une certaine époque du Canadien. Les amateurs avaient fondé énormément d'espoir en lui. Évidemment, on connaît bon son parcours avec le Canadien de Montréal. Ça n'avait pas nécessairement été, phénoménal, mais ça avait quand même été le choix de première ronde, troisième au total en 2012 du Canadien. Il a connu de belles saisons, notamment en 2015-2016, où il avait réussi une saison de 30 buts, 26 passes pour 56 points. Écoute, à ce moment-là, on s'est dit peut-être qu'Alex Galchenyuk va devenir le joueur tant convoité chez le Canadien. Rappelle-toi, à l'époque, Sébastien, le débat à Montréal, dans le fond, c'était de se trouver un centre partant, un centre qui allait finalement amener une stabilité, si tu veux, à cette position-là, qui était une position auquel on souffrait énormément à Montréal depuis plusieurs années. Bon, les choses ont fait leur temps. Galchenyuk est essayé à l'aile, ça n'a pas fonctionné non plus. Il y a eu un débat pendant je ne sais pas combien de temps, entre est-ce que Galchenyuk est un joueur de centre ou est-ce qu'il est un ailier. Finalement, avait été transigé à Phoenix par la suite contre Max Domi. Puis là, l'histoire a écrit son cours. Galchenyuk va être à sa cinquième équipe avec les Sénateurs parce que depuis, bon, il a fait les Coyotes de l'Arizona, les Penguins de Pittsburgh et également le Wild du Minnesota. C'est pas compliqué, il s'est promené dans toutes les divisions de la Ligue nationale de hockey pour revenir dans la division atlantique. Ce qu'on apprenait hier, c'est que les Sénateurs lui ont consenti un contrat d'un an de 1,5 million ou 1,05 en fait, là, million de dollars pour une saison. Moi, je pense que c'est un beau risque. Honnêtement, là, je pense que c'est un très beau risque des Sénateurs. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur, ont beaucoup de jeunes, là, des jeunes qui, disons, sont de bons espoirs dans la Ligue nationale, mais je pense qu'on se donne une chance quand même d'être compétitif avec des acquisitions comme ça. Je vous parlais d'Adonov il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines à peine, de cette signature-là. Là, on a même Galchenyuk qui a quand même une certaine expérience, qui va avoir beaucoup de temps de jeu s'il réussit à performer, un peu comme Anthony Duclair a fait avec les Sénateurs. Ça lui a permis de relancer sa carrière. Alors, est-ce que Galchenyuk va être capable de faire ça avec les Sénateurs d'Ottawa? Ben, ce sera à suivre au fil de la prochaine saison. Évidemment, il y a plusieurs questionnements, puis je comprends. Parce que là, Galchenyuk arrive dans une équipe de jeunes, et il n'y a pas nécessairement de leader fort, là, sans rien enlever aux gars qui sont dans le vestiaire. Il n'y a pas de leader à la Shea Weber, il n'y a pas de leader à la Sidney Crosby à l'intérieur de ce vestiaire-là. Alors, on se dit, qui va protéger les jeunes? Parce qu'on sait que le mode de vie d'Alex Galchenyuk est assez flamboyant. Il y a beaucoup de frasques, il y a beaucoup de rumeurs à son sujet à l'extérieur de la patinoire. On dit qu'il n'y a pas nécessairement une vie saine et équilibrée. Alors, il va falloir que les Sénateurs s'assurent d'avoir une certaine surveillance d'Alex Galchenyuk pour s'assurer que les recrues, les jeunes joueurs de l'équipe ne tombent pas nécessairement dans cette tourmente-là que vit Alex Galchenyuk depuis le début de sa carrière, là, puis je vais essayer de rester poli. Alors, moi, je pense que c'est la seule chose sur laquelle les Sénateurs doivent se concentrer, puis s'assurer que Galchenyuk ait du temps de jeu de qualité, qu'on lui donne une bonne chance. On verra ce que DJ Smith va faire avec lui, mais honnêtement, moi, je vois pas de risque. Là. Écoutez, comme je le disais, une saison de 30 buts, une saison de 20 buts, il y a deux saisons de 19 buts. Alors, c'est un gars qui est capable de marquer des filets, c'est un gars qui est capable de contribuer à l'attaque d'une équipe. Dans un top 6, maintenant, il faut lui donner une chance de se faire valoir. Puis je pense qu'Ottawa, pour lui, là, c'est sa dernière chance. C'est la meilleure chance qu'il pouvait avoir aussi, parce que c'est une équipe en reconstruction, mais c'est sa dernière chance. Écoute, si ça fonctionne pas, Ottawa, là, Alex Galchenyuk s'en va en KHL, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je pense que ce gars-là veut se donner une dernière chance dans la Ligue nationale. Puis tant mieux si ça se fait dans notre cours ici à Ottawa, en espérant pour lui qu'il trouve chaussure à son pied, puis que l'équipe aussi puisse trouver, dans le fond, un élément intéressant à l'attaque pour la saison prochaine.
On surveillera ça justement à l'amorce de cette prochaine saison, quand elle débutera. Parlons baseball, là, les Dodgers l'ont emporté, cette série mondiale. Ça faisait plusieurs années qu'ils n'avaient pas vu la couleur de ce trophée-là. Mais là, veux pas une victoire, c'est le fun. Puis là, on se rassemble sur le terrain, on célèbre, on serre dans les bras. Sauf que en temps de COVID, il peut y avoir des petits accrochages par rapport à cet événement-là.
Absolument. Et ce qui a retenu l'attention, c'est qu'il y a un joueur qui n'était pas dans l'alignement, qui s'appelle Justin Turner des Dodgers, qui lui, là, une fois les célébrations commencées, il a décidé d'aller rejoindre son équipe sur le terrain, de célébrer, de faire des accolades, de prendre le trophée, de prendre des photos avec le trophée, avec ses coéquipiers. Et pendant tout ce temps-là, Sébastien, ce qu'on savait, c'est que Turner était atteint de la COVID-19.
Mm-hmm.
Et là, écoute, tu comprendras que ça a créé un profond malaise au sein non seulement des Dodgers de Los Angeles, mais ça a jeté également une douche d'eau froide sur la Ligue qui, elle, se vantait de ne pas avoir eu de cas de la COVID-19. Puis rappelle-toi, la semaine dernière, je te disais, on est confiant du côté de la Ligue majeure de baseball d'accueillir des partisans l'an prochain parce qu'on se pète les bretelles qu'on n'a pas eu de COVID-19 de répertorié. Ben, comble de malheur, Sébastien, une semaine plus tard, après qu'on se soit parlé de ça, le circuit Manfred est dans un scandale de COVID-19 parce qu'il y a un joueur qui a décidé qu'il allait célébrer même s'il était atteint de ça.
Puis célébrer, il faut le dire, célébrer, pas de masque, pas de protection, rien. Là.
Ben, écoute,
ça a pris le bord vite. Là.
Ben, dans les images que j'ai vues, à certaines occasions, il y avait un masque. Là. Fait que, tu sais, je veux pas... Mais, okay. Mais c'est quand même les accolades, Sébastien.
Ah oui.
On dit que c'est un virus qui est extrêmement contagieux. Là, tu vas faire des accolades à tes coéquipiers, etc., que tu aies un masque ou pas, normalement. Garde-toi une petite gêne.
Oui.
Alors, écoute, on sait que la Ligue va enquêter là-dessus parce qu'on tentait justement de se faire comme, si tu veux, le portrait, le meilleur scénario possible, c'était la Ligue majeure de baseball. On se disait, ben avec eux autres, là, il n'y en a pas de problème de COVID-19, on sait comment gérer ça. Alors que là, ben c'est tout le contraire. On est dans une situation vraiment, vraiment difficile. Et ça va être difficile aussi pour les Dodgers de célébrer, là, puis de faire un défilé ou des festivités derrière la Série mondiale, derrière le championnat de la Série mondiale, parce que, écoute, Sébastien, on ne sait pas combien de joueurs là, vont avoir contracté le virus après ces célébrations-là. Est-ce qu'on peut se permettre de faire une parade dans les rues de Los Angeles? Moi, je ne suis pas certain.
Mais il me semble que j'ai vu passer qu'ils allaient attendre pour cette parade-là. Ils ont mis un communiqué qui disait « On va attendre de pouvoir le faire de façon sécuritaire pour que tout le monde puisse profiter de cette victoire-là. » Mais là, quand? Je ne sais pas. Là.
Ben, c'est ça. Non, tu as tout à fait raison. Mais là, maintenant, c'est qu'on fasse des tests au plus vite. Là.
Mm-hmm.
Qu'on teste tous les joueurs qui étaient sur le terrain. Écoute, à la limite, Sébastien, qu'on teste tout le monde qui était sur le terrain, que ce soit les caméramans, etc. Il faut absolument qu'on mette nos culottes du côté de la Ligue de baseball majeure et dire, ben savez-vous quoi, là, on a échoué, là. Là-dessus, on a paru, on a failli lamentablement. Maintenant, ça va être à nous de s'assurer que tout le monde va être en sécurité, puis on va faire ce qu'il faut, le nécessaire, pour s'assurer qu'il n'y aura pas une propagation importante. Alors, j'espère, en tout cas, qu'on a appris du côté du baseball majeur, mais c'est malheureux, puis c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à ça, parce que la semaine dernière, je te disais que je trouvais que M. Manfred, Rob Manfred, savait, disons, exprimé un peu trop rapidement sur le retour des partisans en vue de la prochaine saison. Je me disais, écoute, c'est correct, mais garde-toi une petite gêne, parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis je me rappelle, Sébastien, je t'ai dit ces mots-là, je t'ai dit... J'espère qu'il n'y aura pas d'événement malheureux pour lui d'ici à la fin de la Série mondiale. Puis comme de raison, ben regarde, dernier match, célébration sur le terrain. Et là, ben on a un scandale de COVID-19. En tout cas,
revenons au match maintenant, parce que pendant le match, il y a le gérant des Rays qui a... il a dû s'expliquer après le match, mais pendant le match, une décision qui aurait pu, qui aurait, selon plusieurs, coûté la victoire.
Oui, absolument. Le gérant des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, qui a décidé à un certain moment de retirer le partant Blake Snell de la rencontre. À ce moment-là, là, pour vous mettre en contexte, c'est 1-0 pour Tampa Bay. On est en contrôle du match tellement que du côté de Blake Snell, là, on joue un match quasi parfait. Là. Écoutez, ça a été tout un début de match pour lui. Par contre, Sébastien, on a décidé de le retirer. Et là, c'est là que les Dodgers se sont inscrits à la feuille de pointage. Par la suite, ben, on a vu que le vent a complètement tourné. Là, évidemment, les amateurs des Rays de Tampa Bay, même les amateurs de baseball, se disent « Mais quelle décision de Kevin Cash, ça n'a pas de bon sens, ça devrait lui coûter son emploi.
»
Lui s'est expliqué hier en disant « Écoutez, moi, là, si je me fie à ma saison, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fonctionné de la sorte, puis c'est pas parce qu'on était dans un match décisif que je devais pas le faire. » Il a décidé d'envoyer un autre releveur. Et malheureusement, ça lui a coûté le match. Et écoutez, là, Blake Snell là, avait réussi 9 retraits au bâton en 5 manches et un tiers. Il avait donné aucun but sur balle. Moi, je trouve que c'est une décision, disons, qu'il faut que tu vives avec, tu sais, parce que t'as un lanceur qui est pratiquement parfait là, pendant un match décisif où t'as pas le droit de perdre. Puis finalement, tu décides de le retirer parce que tu dis, ben, il n'a jamais lancé plus que 6 manches. Je voulais pas l'amener dans cette position-là. Je voulais amener un autre releveur. Puis ça t'a coûté la rencontre. Écoute, Sébastien, le résultat, le final, là, si Blake Snell avait resté comme partant, là, on ne sait pas si les Dodgers n'auraient pas été en mesure de revenir également dans ce match-là. Là. Ça ne veut pas dire que les Dodgers l'avaient échappé. Ce match-là, c'était juste 1-0. Sauf que, écoute, ça te montre à quel point c'est des positions, des rôles pas faciles à occuper pour certaines personnes parce que là, tout le monde réclame sa tête du côté de Tampa Bay et avec raison, là, je veux dire, c'est une décision qui a coûté ce qu'on dit la victoire.
Selon toute vraisemblance, là, la victoire.
Ouais, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, dans le cas d'Anderson qui est venu en relève, lui avait connu une saison phénoménale. Là. Il avait alloué un seul point mérité en 16 manches et un tiers. Fait que tu te mets dans la peau de Kevin Cash, tu te dis, moi je sais que Nick Anderson est capable de faire le travail, t'as l'impression qu'il va être capable de livrer la marchandise si tu te fais à la saison qu'il a connue, puis malheureusement, ben écoute, le vent a tourné, c'est dommage, mais des fois, c'est comme ça le monde du sport, c'est ingrat, et il y a des histoires comme ça qui arrivent, mais je peux te dire une chose, j'ai l'impression que Kevin Cash l'an prochain va être scruté à la loupe sur chaque décision qu'il va prendre chez les Rays de Tampa Bay, mais du moins, beau parcours, c'est le fun d'avoir vu une équipe comme les Rays, qui n'a pas la même marge salariale que les Dodgers de Los Angeles, jouer dans une série mondiale. C'est pour ça que le baseball, des fois, c'est une si belle histoire, c'est qu'il y a des équipes qui n'ont pas les moyens financiers des autres équipes, qui sont capables de se rendre au match ultime. Moi, je pense que même s'ils n'ont pas levé le trophée, ça a été une très, très belle histoire pour eux cette année.
Puis sinon, rapidement, en terminant, on parle rapidement de hockey pour dire que la Ligue de l'Ontario est allée sortie sa boule de cristal, en fait, et s'est projetée dans le futur.
Oui, tout à fait. Il y en a qui trouvent ça un peu téméraire, là, parce que on sait que la Ligue junior majeure du Québec se retient. Il va y avoir des matchs en fin de semaine dans des zones classifiées orange. Là. Mais on sait que, par exemple, les Olympiques de Gatineau, à moins que l'Outaouais tombe en zone orange, il n'y a pas de chance qu'ils disputent de matchs prochainement. Même chose pour l'Armada, etc. Mais oui, la Ligue de l'Ontario, la Ligue junior de l'Ontario a annoncé hier qu'elle va lancer sa saison 2021 le 4 février. Je dis hier, là, l'annonce a été faite aujourd'hui officiellement. Les camps d'entraînement donc vont débuter le 23 janvier. Les équipes vont jouer 40 matchs en saison régulière. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on va limiter les placements. Donc, les équipes vont jouer principalement contre des rivaux là, qui sont dans leur région géographique, si tu veux. Et on dit que la saison va prendre fin le 8 mai. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un plan qui se tient. Maintenant, par contre, ça lance un drôle de message du côté de la Ligue canadienne de hockey parce qu'on se dit, ben nous autres, la Ligue de l'Ontario, on pense qu'ils vont pouvoir faire ça à partir de février prochain. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi qu'on n'a pas de plan pour nos deux autres ligues. Je trouve ça dommage parce que là, on parle même de Coupe Mémoriale dans le communiqué de la Ligue canadienne de hockey. Ouais, on dit que la Coupe Mémoriale doit débuter le 17 juin. Et elle sera présentée à Oshawa au Sault-Sainte-Marie en Ontario. Alors, est-ce qu'on est confiant qu'en Ontario, du côté de la Ligue canadienne, ça va se régler là-bas puis qu'on va être en mesure de faire ça? Mais on sait même pas si du côté de la Ligue junior majeure du Québec,
mais non,
par
c'est
exemple.
Ça prend d'autres mondes, ça prend d'autres matchs pour pouvoir se rendre au match de la Coupe Mémoriale.
Exactement. Et là, on apprenait également aujourd'hui que Gilles Courteau allait avoir une réunion d'urgence avec la santé publique. Mais ça veut rien dire. Ça veut pas dire non plus que la Ligue junior majeure du Québec va être prêt à opérer pleinement d'ici les prochaines semaines. Alors, j'ai hâte de voir, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'on accorde ça à la Ligue junior de l'Ontario pendant qu'on sait pas ce qui se passe avec nos deux autres circuits. C'est dommage, mais écoute, la Ligue canadienne de hockey, puis je veux pas tomber dans les préférences, etc., mais on sait que la Ligue canadienne de hockey a souvent prôné ce qui se passe en Ontario. Alors, je sais pas si on a un traitement de faveur ou peu importe, mais hier, je sais que les gens, disons, discutaient beaucoup par rapport à ça en disant, savez-vous quoi, là, moi, je pense qu'il y a un traitement de faveur du côté de la Ligue junior de l'Ontario. On veut leur donner le plus de chances possible de discuter du hockey, Puis c'est malheureux si on ne le fait pas pour la Ligue junior-major du Québec, puis même pour la Ligue de l'Ouest. En tout cas, ce sera à suivre. Mais c'est sûr que M. Courteau, aujourd'hui, arrive avec des arguments devant la santé publique en disant, écoutez, là, moi, ça se peut pas que ça se passe ailleurs en province, au pays, puis pas chez nous. Il faut qu'on trouve une façon. Alors, j'ai hâte de voir ça va être quoi le dénouement de cette histoire-là.
Olivier Beauregard, merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous jeudi prochain.
Absolument, bye-bye!